Bonjour, je suis Megda, la fondatrice de Why a PhD. Why a PhD, le podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs qui évoluent dans la sphère universitaire ou de manière indépendante. Parce qu'il y a autant de chercheuses et de chercheurs que de manières de faire de la recherche, j'ai voulu aller à leur rencontre. À travers chaque épisode, ces passionnés vous raconteront les processus qui les ont menés sur cette voie, les thématiques qui les habitent, mais également leur cheminement, parfois traversé de joie, doutes et remises en question. J'espère que cela vous inspirera et éveillera votre curiosité. Bonne écoute! Dans cet épisode, je reçois Renard Ferré, chargé d'analyse de données au sein de l'agence Onogone, une start-up de l'intelligence artificielle axée sur le traitement naturel du langage. Lors de cet échange, il explique son parcours doctoral en Allemagne, les spécificités du parcours de doctorant dans ce pays, mais aussi des violences transphobes qu'il a subies au sein de la sphère universitaire et qui l'ont poussé à arrêter sa thèse pour se rediriger vers le secteur privé afin de préserver sa santé mentale. Bonne écoute. Bonjour Renard.
Bonjour Magda.
Je te remercie d'avoir accepté de participer à cet épisode de Why a PhD. Alors en 2014, tu as commencé un doctorat en physique solaire dans un institut de recherche en Allemagne. Je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la recherche en Allemagne ?
Alors, ce qui s'est produit, c'est que j'ai fait mes études à Toulouse. J'ai fait là-bas un master d'astrophysique à l'université de Toulouse en partenariat avec l'ISAE, super héros. Et mon master s'est très très bien passé, mais au terme du master, malheureusement, il y avait très peu de place à l'école doctorale et je n'ai pas fait partie des heureux élus. Et il a bien fallu trouver une solution de repli. À la base, je n'avais absolument pas l'intention de faire un doctorat en Allemagne. Je comptais rester avec ma famille et mes amis, mais une opportunité s'est présentée via la directrice du master qui m'a présenté à une personne en Allemagne qui dirigeait une équipe de recherche et cherchait des doctorants. Et de fil en aiguille, le sujet m'a relativement plu. J'ai fait mes valises et j'y suis allée.
Et quelle démarche tu as dû entreprendre pour postuler dans cet institut de recherche ?
Alors, les démarches que j'ai dû entreprendre pour postuler dans cet institut de recherche ont été un petit peu particulières, étant donné que je ne suis pas passée par le canal habituel. Le canal habituel pour cet institut, ils font un appel à candidature tous les ans, à peu près à la même période, en automne, pour un premier round d'entretien en février et un démarrage de doctorat en septembre. Dans mon cas, ça n'était pas approprié, puisqu'il me fallait quelque chose assez rapidement. Donc ça s'est décidé un peu directement avec le directeur de recherche. On a fait une procédure de recrutement accélérée où j'ai rempli le dossier, fait l'entretien et commencé le doctorat en l'espace de 2 mois.
Et donc du coup, tu as une expérience de la sphère universitaire française et allemande. Quelle différence tu soulèves entre ces deux systèmes ?
Alors c'est un petit peu difficile à dire parce que mon expérience de la sphère française comme celle d'ailleurs de la sphère allemande sont très particulières l'une comme l'autre. Les deux instituts pour lesquels j'ai pu travailler à la fois pendant mon stage de master et pendant mon doctorat étaient d'envergure très différente, étaient de renommée très différente, étaient de taille très différente, donc forcément des budgets très différents. Dans les deux cas, ce que j'ai pu constater, c'est que le matériel n'était vraiment pas très bon, que ce qui était fourni, que ce soit aux stagiaires ou aux doctorants, n'était pas vraiment qualitatif.
Quand tu parles de matériel, tu penses à quoi ?
Alors moi, dans mon cas, j'utilisais essentiellement un ordinateur et rien que ça, c'était compliqué. Mais j'ai pu observer aussi des personnes qui avaient accès à des laboratoires, à des clean rooms, et que ce soit en Allemagne ou en France, c'était toujours très compliqué quand il s'agissait de remplacer du matériel cassé ou simplement usé ou obsolète, qu'on avait beaucoup de mal à avoir des choses à la pointe de l'état de l'art, et ça, que ce soit en Allemagne ou en France, c'était la même chose. Après, en termes de différence, je dirais le statut administratif et la qualité des contrats. En Allemagne, le doctorant a souvent, et notamment les syndicats étudiants se sont battus pour ça, a souvent un statut contractuel semblable à celui d'un employé tout à fait lambda, avec une paye qui est bien supérieure à ce qu'il y a en France. Les obligations sont aussi supérieures, c'est-à-dire que en Allemagne, c'était absolument obligatoire pour obtenir la thèse que de faire de l'enseignement, ça n'était pas un bonus. mais en parallèle, bon, on n'était pas payé pour enseigner. Et à part ça, c'était sensiblement pareil, à l'exception majeure, certes, du fait que en Allemagne, la paye est un peu mieux et le statut contractuel est un peu meilleur. Les deux univers étaient très semblables.
Et quel était ton quotidien de doctorant ?
Alors, mon quotidien de doctorant consistait essentiellement à faire ce que font, je pense, une grande majorité des doctorants, à savoir compiler de la bibliographie, faire des expérimentations plus ou moins heureuses et essayer désespérément d'avoir un papier prêt à être publié. Mon quotidien, à partir notamment de la deuxième année, ça a été essentiellement faire des allers-retours avec mes encadrants pour revoir un papier.
Lorsqu'on se lance dans un doctorat, on parle très souvent de la relation entre le doctorant et son directeur de thèse ou sa directrice de thèse. Comment se passait justement ta relation avec ton directeur de thèse ?
Alors, ma relation avec mon directeur de thèse, elle était très désagréable. On avait des modes de communication tout à fait incompatibles et je pense que ça va même plus loin, qu'on avait des personnalités et des façons d'être totalement incompatibles. Je pense aussi très sincèrement que le fait que je suis queer lui a posé problème parce que j'ai vu son attitude envers moi changer du moment où il a compris que je n'étais pas une personne cisgenre et hétérosexuelle. C'était quelqu'un de très peu disponible aussi, ce qui est quand même dommage quand on encadre des doctorants. C'était quelqu'un qui était très campé sur ses positions et qui n'avait pas très envie d'entendre des conclusions qui différaient des siennes. Donc ça rendait la relation extrêmement compliquée parce que je suis moi aussi très très obstinée, très à cheval sur mes petites idées et que à l'époque j'étais probablement beaucoup trop jeune pour arriver à trouver le moyen de concilier nos deux attentes, nos deux personnalités. Donc cette relation était vraiment très mauvaise, elle a viré au harcèlement, du moins c'est ainsi que je l'ai perçue et c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas été au bout de ce doctorat.
Ouais, c'est fou à quel point on entend à chaque fois les témoignages assez similaires à quel point la relation entre le doctorant et la doctorante et son ou sa directrice directeur de thèse, à quel point en fait ça peut entacher le parcours doctoral et parfois mener à des abandons. C'est très récurrent, moi j'en entends très souvent et encore plus depuis que j'ai lancé ce podcast. Et tu parlais justement de son changement de comportement vis-à-vis de toi parce que tu es queer et tu as entamé ton parcours de transition pendant ton doctorat. Est-ce que tu as remarqué aussi des changements de comportement de tes collègues vis-à-vis de toi pendant ces années-là ?
De mes collègues, pas vraiment. Disons que je relationnais déjà assez peu avec eux et que pour une partie d'entre eux, on était pas vraiment très compatible non plus. Assez clairement, de toute façon, la plupart ont prétendu que rien ne se passait et ont continué à me mégenrer, à utiliser mon ancien prénom, à éviter autant que possible de donner l'impression que quelque chose se produisait et qu'il fallait le respecter.
Et comment t'as vécu cette période ?
Bah, j'ai très mal vécu mon doctorat. Ça a été 4 années extrêmement difficiles dans ma vie. J'ai fait une dépression très violente parce que, bah, pour moi, c'était mon rêve. Je pensais en entamant ce doctorat que j'atteignais enfin le rêve de gosse que j'avais d'être astrophysicien et que j'allais avoir une magnifique carrière. Évidemment, se rendre compte que le rêve et la réalité ne correspondent pas, ça n'était pas forcément très facile à vivre. L'autre problème quand on fait un doctorat loin de chez soi, c'est bien évidemment l'isolation. Même si la communauté des autres doctorants et postdocs de l'institut étaient des gens absolument adorables, dont beaucoup sont restés des amis, ça n'est pas pareil que d'avoir tout son cercle autour de soi.
Qu'est-ce que tu as mis en place à ce moment-là pour essayer de sortir de cette situation, pour essayer d'aller mieux ? Est-ce que tu as pu rencontrer des personnes qui t'ont écouté ou est-ce que tu as pris des décisions radicales pour ta santé mentale ?
Alors, j'étais suivie par un psychiatre et une psychothérapeute. J'ai dû faire un séjour en hôpital psychiatrique de quelques jours, je crois une dizaine de jours, pour essayer de me remettre d'aplomb. Et du reste, la principale décision, ça a été d'arrêter les frais, de me dire de toute façon, je n'aime pas ce que je fais. Je ne m'amuse absolument pas dans ce que je fais, donc je vais complètement changer d'orientation, je vais changer de métier, je vais rentrer en France et espérer que c'est la bonne décision. Jusqu'ici, ça l'a été.
Est-ce que tu as complètement abandonné l'idée de faire de la recherche ?
Alors, je fais de la recherche à l'heure actuelle dans mon métier. Je fais de la recherche, mais dans le secteur privé et pas du tout dans le même domaine. Donc non, j'ai pas du tout abandonné l'idée de faire de la recherche. Après, oui, j'ai abandonné l'astrophysique complètement et je ne pense pas y revenir. Et j'ai abandonné surtout l'académie qui n'est vraiment pas un milieu qui me correspond.
Aujourd'hui, tu t'épanouis dans le secteur privé ?
Oui, complètement. C'est un secteur qui me convient beaucoup mieux, déjà parce qu'il a des rythmes de travail beaucoup plus soutenus. Pas dans le sens quantité de travail, puisque je pense qu'on le sait tous, il y a énormément de travail à faire en doctorat, mais avec des deadlines plus courtes, et donc une possibilité de changer de sujet plus fréquemment. Et je suis quelqu'un qui a besoin de renouveau permanent, qui s'épanouit en changeant fréquemment de centre d'intérêt et de sujet primordial. Et bon, bah, bien évidemment, difficile de parler des avantages du secteur privé sans parler de salaire, qui est 2 à 3 fois plus élevé à l'heure actuelle qu'il n'était à l'époque, et de termes contractuels, puisque bah, le confort d'un CDI est quand même très appréciable.
Effectivement, la précarité financière des doctorants et doctorantes en France, c'est vraiment un sujet important, et je suis toujours étonnée de voir qu'on en parle si peu. Et effectivement, il y a de plus en plus de chercheuses et chercheurs qui se tournent maintenant vers le secteur privé pour plusieurs raisons, une valorisation de leurs travaux et effectivement un meilleur confort matériel. Malgré cette expérience, quel conseil tu donnerais aujourd'hui à une personne qui souhaiterait faire un doctorat ?
Le premier conseil que je lui donnerais, c'est d'être en accord avec soi-même et d'être absolument certain que c'est quelque chose qui l'intéresse, que c'est un sujet qui lui plaît et pas quelque chose que cette personne s'est convaincue d'être ce qu'il ou elle a envie de faire. La deuxième chose, ce serait d'apprendre en amont autant que possible tout ce qui va être technique de communication non violente, tout ce qui va être... technique sociale, triangle de Karman, etc., pour éviter de tomber dans certains écueils qui sont souvent des pièges tendus consciemment ou non par la hiérarchie dans le milieu académique, de bien cerner son sujet dès que possible. Le premier travail, la chose la plus importante à faire, c'est de bien cerner son sujet, bien cerner les attentes de son directeur ou sa directrice, et de ne pas hésiter à aller voir sa directrice, passer du temps ensemble à discuter des termes du sujet, des attentes, des résultats escomptés. Et lire beaucoup de bibliographies, le plus en amont possible.
Comme tu le sais, YPHD, c'est le podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs. Pour toi, qu'est-ce qu'être chercheur ?
Ouf, c'est vaste comme question. Qu'est-ce que c'est qu'être chercheur ? C'est s'attaquer à un problème dont on n'est pas sûr qu'il a une solution et le décortiquer, le tourner dans tous les sens jusqu'à ce qu'on en trouve une. Ça n'est pas forcément la définition qui colle avec le métier de chercheur tel qu'il est pratiqué à l'heure actuelle dans l'académie, où il s'agit plus de être chercheur, c'est celui qui publie des papiers, et peu importe si ce qu'il y a à mettre dans le papier est vraiment pertinent ou pas. Mais voilà, pour moi, l'essence de la recherche, c'est on a une question, on ne sait pas si elle a une réponse, mais on va la chercher quand même.
Je te remercie, Renard, d'avoir accepté d'échanger avec moi dans le cadre de YEPHD et d'avoir partagé tes précieux conseils et ton expérience de doctorant.
Je te remercie pour l'invitation. C'est toujours intéressant de pouvoir parler des expériences différentes qu'on peut rencontrer dans ce milieu. Et j'ai hâte d'écouter plus de podcasts de cette série parce que c'est vraiment un plaisir. Enfin, plaisir, pas toujours. Mais c'est toujours enrichissant, en tout cas, de découvrir les expériences d'autres personnes dans ce milieu très particulier.
Je te remercie, à très bientôt.
À très bientôt, merci.
Merci à Renard d'avoir partagé son parcours. Vous pouvez suivre l'actualité de YEPHD en vous inscrivant à la newsletter sur le site www.yephd.com ou sur les réseaux sociaux. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui ajouter 5 étoiles. À très bientôt.